Chapitre 3. En effet, il n'y avait pas encore longtemps, je me proposais d'aller chez Rasmus Mikirn. Je voulais le prier de me procurer soit des leçons, soit un travail quelconque. Je disais à Raskolnikov, « Mais maintenant, en quoi peut-il être utile ?»« Je suppose qu'il me procure des leçons. Je suppose même que, se trouvant en possession de quelques copecs, il se saigne à blanc pour me fournir de quoi acheter les bottes et les vêtements décents qui sont indispensables à un répétiteur. Mais après, que ferais-je avec quelques piataques? Est-ce de cela que j'ai besoin à présent? Non, vraiment, je suis bien sot d'aller chez Rasmus Mikirn. » La question de savoir pourquoi il se rendait en ce moment chez Rasmus Mikirn le tourmentait plus encore qu'il ne se l'avouait à lui-même. Il cherchait anxieusement quelque sens sinistre pour lui donner dans cette démarche en apparence la plus simple du monde. Mais est-il possible que dans mes embarras j'ai mis tout mon espoir dans Rasmus Mikirn? Est-ce que vraiment je n'attendrai pas mon salut que de lui? Se demandait-il avec surprise. Il réfléchissait, se frottait le front, et tout à coup, après qu'il se fut mis longtemps l'esprit dans la torture, une idée très étrange jaillit à l'improviste dans son cerveau. « Oui, mais j'irai chez Rasmus Mikirn, » dit-il soudain du ton le plus calme, comme s'il eût pris une résolution définitive. « J'irai, oui, chez Rasmus Mikirn, à coup sûr, mais pas maintenant. J'irai le voir... Le lendemain, quand cela sera fini et que mes affaires auront changé de face. » À peine avait-il prononcé ces mots qu'il fit un brusque retour sur lui-même. « Quand cela sera fini, » s'écria-t-il avec un sursaut qu'il arracha du banc sur lequel il était assis. « Est-ce que cela aura lieu? Est-ce que c'est possible ?» Il quitta le banc et s'éloigna d'un pas rapide. Son premier mouvement était de retourner chez lui, mais quoi, rentrer dans cette affreuse petite chambre où il venait de passer plus d'un mois à préméditer tout cela? À cette pensée, le dégoût s'empara de lui et il se mit à marcher à l'aventure. Son tremblement nerveux a pris un caractère fébrile. Il se sentait frissonner. Nonobstant l'élévation de la température, il avait froid. Presque à son insu, cédant à une sorte de nécessité intérieure, il s'efforçait de fixer son attention sur les divers objets qu'il rencontrait pour échapper à l'obsession d'une idée troublante. Mais vainement, il essayait de se distraire. À chaque instant, il retombait dans sa rêverie. Quand il avait levé la tête pour promener ses regards autour de lui, il oubliait une minute après ce à quoi il venait de penser et le lieu même où il était. Ce fut ainsi que Raskolnikov traversa tout Vassili Ostrov, déboucha sur la petite Neva, passa le pont et arriva aux îles. La verdure et la fraîcheur réjouirent d'abord ses yeux accoutumés à la poussière, à la chaux, aux lourds entassements de moellons. Ici, plus d'étouffement, plus d'exhalaisons méphitiques, plus de cabaret. Mais bientôt, ces sensations nouvelles perdirent elles-mêmes leur charme et firent place à un agacement maladif. Parfois, le jeune homme s'arrêtait devant quelques villas coquettement enchâssées au milieu d'une végétation riante. Il regardait par la grille, voyait sur les terrasses et les balcons des femmes élégamment vêtues ou des enfants qui couraient dans le jardin. Il remarquait surtout les fleurs. C'était elles qui attiraient le plus ses regards. De temps à autre, passaient à côté de lui des cavaliers, des amazones, de superbes équipages. Il les suivait d'un œil curieux et les oubliait avant qu'il eût cessé de les apercevoir. À un moment donné, il s'arrêta et compta son argent. Il se trouva posséder environ 30 kopecks. J'en ai donné 20 au sergent de ville, 3 à Anastasia pour la lettre, se dit-il. Par conséquent, c'est 47 ou 50 copecks que j'ai laissé hier chez les Marmeladov. Il avait eu un motif pour vérifier l'état de ses finances, mais un instant après, il ne se rappelait plus pourquoi il avait tiré son argent de sa poche. Oh, ce souvenir lui revint un peu plus tard, comme il passait devant une gargote. Son estomac criait famine. Il entra dans la gargote, avala un petit verre d'eau de vie et mangea quelques bouchées d'un pâté qu'il emporta pour l'achever tout en se promenant. Depuis fort longtemps, il n'avait pas pris de spiritueux. Le peu d'eau de vie qu'il venait de boire agit immédiatement sur lui. Ses jambes s'apesantirent et il commença à éprouver une forte envie de dormir. Il voulut retourner chez lui, mais arrivé à Petrovski Ostrov, il se sentit incapable d'aller plus loin. Quittant donc la route, il pénétra dans les taillis, se coucha sur l'herbe et s'endormit à l'instant même. Dans l'état maladif, les songes se distinguent souvent par un relief extraordinaire et une ressemblance frappante avec la réalité. Le tableau est quelquefois monstrueux, mais la mise en scène et toute la suite de la représentation sont néanmoins si vraisemblables, les détails sont si fins et offrent dans leur imprévu un agencement si ingénieux que le songeur, fût-il même un artiste comme Pouchkine ou Turgenev, serait à l'état de veille incapable d'inventer aussi bien. Ces songes maladifs laissent toujours un long souvenir et affectent profondément l'organisme déjà détraqué de l'individu. Raskolnikov fit un rêve affreux. Il se revit enfant dans la petite ville qu'il habitait alors avec sa famille. Il a 7 ans et un jour de fête, vers le soir, il se promène extramuros, accompagné de son père. Le temps est gris, l'air est lourd, les lieux sont exactement tels que sa mémoire les lui rappelait. Il retrouve même en songe plus d'un détail qui s'était effacé de son esprit. La petite ville apparaît absolument à découvert, aux environs pas même un sol blanc. Quelque part, bien loin, tout au bout de l'horizon, un petit bois forme une tache noire. À quelques pas du dernier jardin de la ville, se trouve un cabaret, un grand cabaret, près duquel l'enfant ne pouvait jamais passer en se promenant avec son père, sans éprouver une impression très désagréable et même un sentiment de frayeur. Il y avait toujours là une telle foule, des gens qui braillaient, riaient, s'injuriaient, se battaient ou chantaient d'une voix enrouée de si vilaines choses. Aux environs erraient toujours des hommes ivres et leurs figures étaient si affreuses. À leur approche, Rodion se serrait étroitement contre son père et tremblait de tout son corps. Le chemin de traverse qui longe le cabaret est toujours couvert d'une poussière noire. À 300 pas de là, il fait un coude à droite et contourne le cimetière de la ville. Au milieu du cimetière s'élève une église de pierre, surmontée d'une coupole verte, où l'enfant allait 2 fois par an entendre la messe avec son père et sa mère, lorsqu'on célébrait l'office pour le repos de l'âme de sa grand-mère, morte depuis longtemps déjà et qu'il n'avait jamais connue. Dans ces conditions, ils emportaient toujours un gâteau de riz, sur lequel une croix était figurée avec des raisins secs. Il aimait cette église, ses vieilles images, pour la plupart sans garniture, et son vieux prêtre à la tête branlante. À côté de la pierre, marquant la place où reposaient les restes de la vieille femme, il y avait une petite tombe, celle du frère cadet de Rodion, enfant mort à 6 mois. Il ne l'avait pas connu non plus, mais on lui avait dit qu'il avait un petit frère. Aussi, chaque fois qu'il visitait le cimetière, il faisait pieusement le signe de la croix au-dessus de la petite tombe, s'inclinait avec respect et la baisait. Voici maintenant son rêve. Il suit, avec son père, le chemin qui conduit au cimetière. Tous deux passent devant le cabaret. Il tient son père par la main et jette des regards craintifs sur l'odieuse maison où semble régner une animation plus grande encore que de coutume. Il y a là forces bourgeoises et paysannes endimanchées, leurs maris et toutes sortes de gens appartenant à la lie du peuple. Tous sont ivres, tous chantent des chansons. Devant le perron du cabaret stationnent de ces énormes chariots dont on se sert habituellement pour le transport des marchandises et des fûts de vin. D'ordinaire, on y attelle de vigoureux chevaux aux grosses jambes, à la longue crinière, et Raskolnikov avait toujours plaisir à contempler ces robustes bêtes traînant derrière elles les plus pesants fardeaux sans en éprouver la moindre fatigue. Mais maintenant, à ce lourd chariot était attelé un petit cheval rouan d'une maigreur lamentable, une de ces rosses auxquelles les moudjiks font parfois tirer de grosses charrettes de bois ou de foin, et qu'ils accablent de coups alors jusqu'à les fouetter sur les yeux et sur le museau quand les pauvres bêtes s'épuisent en vain pour dégager le véhicule embourbé. Ce spectacle, dont Raskolnikov avait été souvent témoin, lui faisait toujours venir les larmes aux yeux, et sa maman ne manquait jamais en pareil cas de l'éloigner de la fenêtre. Soudain se produit un grand tapage. Du cabaret sortent en criant, en chantant, en jouant de la guitare, des moujiks complètement ivres. Ils ont des chemises rouges et bleues, leurs sarraux sont jetés négligemment sur leurs épaules. « Montez, montez tous !» crie un homme jeune encore, au gros cou, au visage charnu et d'un rouge carotte. « Je vous emmène tous et montez !» Ces paroles provoquent aussitôt des rires et des exclamations. « Ah, une rosse pareille, faire la route ! Mais faut que t'aies perdu l'esprit, Mikolika, pour atteler cette petite jument à un pareil chariot !»« Bon sûr, mes amis, la jument roide marche sur ses 20 ans !»« Montez, j'emmène tout le monde !» cria de nouveau Mikolka, qui saute le premier dans le chariot, saisit les guides et se dresse de toute sa taille sur le devant du véhicule. Le cheval est parti tantôt avec ma vieille. « Cette jument, mes amis, est un vrai crève-cœur pour moi. Je crois que je devrais la tuer, elle ne gagne pas sa nourriture. Allez, montez, vous dis-je, je la ferai galoper. Oh, elle galopera !» Se disant, il prend son fouet, déjà heureux à l'idée de fouetter la jument rouanne. « Mais montez donc, voyons, puisqu'on vous dit qu'elle va galoper !» ricane-t-on dans la foule. Elle n'a sans doute pas galopé depuis 10 ans. Elle y remonte, hein. La ménagez pas, mes amis. Prenez chacun un fouet, préparez-vous tous. C'est cela, on la fouettera. Et tous grimpent dans le chariot de Mikolka en riant et en faisant des plaisanteries. 6 hommes sont déjà montés, il reste encore de la place. Ils prennent avec eux une grosse paysanne au visage rubicon. Cette commère, vêtue d'une sarafane de coton rouge, a sur la tête une sorte de bas-volet orné de verroterie. Elle croque des noisettes et rit de temps à autre. Dans la foule qui entoure l'équipage, on rit aussi, et en vérité, comment ne pas rire à l'idée qu'une pareille rosse emportera au galop tout ce monde-là. 2 des gars qui sont dans le chariot prennent aussitôt des fouets pour aider Mikolka. « Allez !» crie ce dernier. Le cheval tire de toutes ses forces, mais bien loin de galoper, c'est à peine s'il peut avancer d'un pas. Il piétine, gémit et plie le dos sous les coups que les 3 fouets font pleuvoir sur lui, dru comme grêle. Les rires redoublent dans le chariot et dans la foule, mais Mikolka se fâche et lance sa colère. Il tape de plus belle sur la jument, comme si vraiment il espérait la faire galoper. « Laissez-moi aussi monter, mes amis !» crie parmi les spectateurs un jeune homme qui brûle de se mêler à la bande joyeuse. « Monte !» répond Mikolka. « Montez tout, cela mènera tout le monde, je vais la faire marcher !» Là-dessus, il fouette, et dans sa fureur, ne sait déjà plus avec quoi frapper sa bête. « Oh, papa, papa !» crie l'enfant à son père. « Papa, qu'est-ce qu'ils font ? Papa, ils battent le pauvre petit cheval !» « Marchons, marchons, » dit le père, « ce sont des ivrognes qui s'amusent, des imbéciles. Viens, fais pas attention à eux. » Et il veut l'emmener, mais Rodion se dégage des mains paternelles et, ne se connaissant plus, accourt auprès du cheval. Déjà, le malheureux animal n'en peut plus, il halète, après un instant d'arrêt, recommence à tirer et peu s'en faut qu'il ne s'abatte. « Fouettez-le jusqu'à ce que la mort s'en suive !» hurle Mikolka. « Il n'y a plus que cela à faire. Oh, je vais m'y mettre !»« Pour sûr, t'es pas chrétien, loup-garou !» crie un vieillard dans la foule. « A-t-on jamais vu un petit cheval pareil traîner un lourd chariot comme cela ?» ajoute un autre. « Vaut rien !» vocifère un troisième. « Mais c'est pas à toi, c'est mon bien, je fais ce que je veux. Allez, montez encore, montez tous, il faut absolument qu'elle galope !» Soudain, la voix de Mikolka est couverte par de bruyants éclats de rire. La jument, accablée de coups, a fini par perdre patience et, nonobstant sa faiblesse, s'est mise à ruer. L'hilarité générale gagne le vieillard lui-même. Il y a vraiment de quoi rire, en effet. Un cheval qui peut à peine se tenir sur ses jambes et qui rue. Deux gars se détachent de la foule, s'arment de fouet et courent cingler l'animal, l'un à droite, l'autre à gauche. « Fouettez-la sur le museau, sur les yeux !» vocifère Mikolka. « Une chanson, mes amis !» crie quelqu'un au chariot. Aussitôt, toute la bande entonne une chanson grossière, un tambour de basque fait l'accompagnement. La paysanne croque des noisettes et rit. Rodion s'est approché du cheval. Il le voit fouetter sur les yeux, oui, sur les yeux. Il pleure, son cœur se soulève, ses larmes coulent. Un des bourreaux lui effleure le visage avec son fouet. Oh, il ne le sent pas. Il se tord les mains, pousse des cris. Il s'élance vers le vieillard à la barbe et aux cheveux blancs qui hoche la tête et condamne tout cela. Une femme prend l'enfant par la main et veut l'emmener loin de cette scène. Il se dégage et se hâte de revenir auprès de la jument. Celle-ci est à bout de force, néanmoins. Elle essaye encore de ruer. « Oh, loup-garou !» vocifère Mikolka exaspéré. Il abandonne son fouet, se baisse et ramasse dans le fond du chariot un long et lourd brancard. Le tenant par un bout dans ses deux mains, il le brandit avec effort au-dessus de la jument rouanne. « Mais il va l'assommer !» crie-t-on autour de lui. « Il la tuera !»« C'est mon bien !» crie Mikolka. Et le brancard, manié par deux bras vigoureux, tombe avec fracas sur le dos de l'animal. « Fouettez ! Fouettez ! Pourquoi vous arrêtez-vous ? » font entendre des voix dans la foule. De nouveau, le brancard s'élève dans l'air, de nouveau, il s'abat sur les chines de la malheureuse haridelle. Sous la violence du coup, elle faiblit, mais néanmoins elle prend son élan, et avec tout ce qui lui reste de force, elle tire en divers sens pour échapper à ce supplice, mais de tous côtés elle rencontre les six fouets de ses persécuteurs. Une troisième, une quatrième fois, Mikolka frappe sa victime avec le brancard. Il est furieux de ne pouvoir la tuer d'un seul coup. « Ah, elle a la vie dure » crie-t-on dans son entourage. Bon, elle n'en a certes plus pour longtemps, mes amis. Sa dernière heure est arrivée, observe dans la foule un amateur. Ben, qu'on prenne une vache, c'est le moyen d'en finir tout de suite avec elle, suggère un troisième. Place, fait Mikolka. Ses mains lâchent le brancard, il fouille de nouveau dans le chariot et y prend un levier de fer. Gare! Crie-t-il ensuite, et il assène un violent coup de cette arme au pauvre cheval. La jument chancelle, s'affaisse, elle veut encore tirer, mais d'un second coup du levier, l'étend sur le sol comme si on lui avait tranché instantanément les quatre membres. Achevons-la! Hurle Mikolka, qui, hors de lui, saute en bas du chariot. Quelques gars rouges et avinés saisissent ce qui leur tombe sous la main, des fouets, des bâtons, le brancard, et courent au cheval expirant. Mikolka, debout à côté de la bête, la frappe sans relâche à coups de levier. La jument allonge la tête et rend le dernier soupir. Elle est morte! Crie-t-on dans la foule. Mais pourquoi voulait-elle pas galoper? C'est bon bien, crie Mikolka, tenant toujours le levier dans ses mains. Ses yeux sont injectés de sang, et il semble regretter que la mort lui ait enlevé sa victime. Eh bien, vrai, t'es pas chrétien, répliquent avec indignation plusieurs des assistants. Mais le pauvre petit garçon ne se connaît plus. Tout en criant, il se fraye un chemin à travers la foule qui entoure la jument rouanne. Il prend la tête ensanglantée du cadavre et la baise sur les yeux, sur les lèvres. Puis, dans un soudain transport de colère, il serre ses petits poings et se jette sur Mikolka. En ce moment, son père, qui depuis longtemps déjà était à sa recherche, le découvre enfin et l'emmène hors de la foule. Allons-nous-en, lui dit-il, rentrons à la maison. Mais papa, pourquoi ont-ils tué le pauvre cheval? Sanglote l'enfant. Mais la respiration lui manque et de sa gorge serrée ne sortent que des sons rauques. Oh, ce sont des polissonneries de gens ivres. Cela ne nous regarde pas, partons, dit le père. Rodion le presse dans ses bras, mais il a un tel fardeau sur la poitrine. Il veut respirer, crier. Et s'éveille. Raskolnikov se réveilla, haletant, le corps moite, les cheveux trempés de sueur. Il s'assit sous un arbre et respira longuement. Ah, grâce à Dieu, ce n'est qu'un songe, se dit-il. Mais quoi, est-ce que je commencerais une fièvre? Un si vilain rêve me donnerait-il à penser? Il avait les membres comme brisés. Son âme était pleine d'obscurité et de confusion. Appuyant ses coudes sur ses genoux, il laissa tomber sa tête dans ses mains. Mon Dieu! S'écria-t-il. Se peut-il en effet que je prenne une hache et que j'aille fracasser le crâne de cette femme? Se peut-il que je marche dans le sentier des gluants? Que j'aille forcer la serrure, voler, puis me cacher tremblant, ensanglanté, avec la hache. Mais c'est-à-dire, est-ce que c'est possible? En prononçant ces mots, il tremblait comme une feuille. Mais à quoi avais-je pensé? Continua-t-il d'un ton de profonde surprise. Voyons, je savais bien que je n'en serais pas capable. Mais pourquoi donc me suis-je ainsi tourmenté jusqu'à ce moment? Hier, déjà hier, quand je suis allé faire cette répétition. Hier, oh, j'ai parfaitement compris que cela était au-dessus de mes forces. Mais d'où vient donc que j'ai l'air de me tâter encore à présent? Hier, en descendant l'escalier, je disais moi-même que c'était ignoble, odieux, repoussant. La seule pensée qu'une chose pareil me terrifiait. Non, non, je n'en aurais pas le courage, cela dépasse mes forces. Lors même que tous mes raisonnements ne laisseraient place à aucun doute, lors même que toutes les conclusions auxquelles je suis arrivé durant ce mois seraient claires comme le jour, exactes comme l'arithmétique, ah, n'importe, je ne saurais me décider à cela. J'en suis incapable. Pourquoi donc? Pourquoi maintenant encore? Il se leva, regarda d'un air étonné autour de lui, comme s'il eût été surpris de se trouver là, et prit le pont T. Il était pâle, ses yeux brillaient, l'affaiblissement se manifestait dans tout son être, mais il commençait à respirer plus à l'aise. Déjà, il se sentait délivré de l'affreux poids qu'il avait si longtemps oppressé, et la paix rentrait dans son âme soulagée. « Seigneur, pria-t-il, montre-moi ma route et je renoncerai à ce rêve maudit. » En traversant le pont, il regardait tranquillement la rivière et le flamboyant coucher du soleil. Malgré sa faiblesse, il ne sentait même pas la fatigue. On eût dit que l'abcès qui s'était formé dans son cœur depuis un mois venait de crever subitement. À présent, il était libre, le charme était rompu, l'horrible maléfice avait cessé d'agir. Plus tard, Raskolnikov se rappela minute par minute l'emploi de son temps durant ses jours de crise. Une circonstance, entre autres, lui revenait souvent à la pensée, et bien qu'elle n'eût pas elle-même rien de particulièrement extraordinaire, il n'y songeait jamais qu'avec une sorte d'effroi superstitieux, vu l'action décisive qu'elle avait exercée sur sa destinée. Voici le fait qui restait toujours pour lui une énigme. Comment, alors que fatigué, harassé, il aurait dû, se semble, retourner chez lui par le chemin le plus court et le plus direct, comment l'idée lui est-elle venue de prendre par le marché au foin où rien, absolument rien ne l'appelait? Sans doute ce détour n'allongeait pas beaucoup sa route, mais il était parfaitement inutile. À la vérité, il lui était arrivé des dizaines de fois de regagner sa demeure sans faire attention à l'itinéraire qu'il suivait. Mais pourquoi donc, se demandait-il toujours, pourquoi la rencontre si importante, si décisive pour moi et en même temps si fortuite que j'ai faite sur le marché au foin, où je n'avais aucun motif pour me rendre? Pourquoi cette rencontre a-t-elle eu lieu à l'heure même, au moment précis où, étant donné les dispositions dans lesquelles je me trouvais, elle devait avoir les suites les plus graves et les plus irréparables? Il était tenté de voir dans cette fatale coïncidence l'effet d'une prédestination. Il était près de 9 heures quand le jeune homme arriva sur le marché au foin. Les boutiquiers fermaient leurs boutiques, les étalagistes se préparaient à retourner chez eux, et les chalands faisaient de même. Des ouvriers et des loqueteux de toutes sortes grouillaient aux abords des gargotes et des cabarets, qui, sur le marché au foin, occupent le rez-de-chaussée de la plupart des maisons. Cette place et les péréoulogues voisins étaient les lieux que Raskolnikov fréquentait le plus volontiers quand il sortait sans but de chez lui. Là, en effet, ces haillons n'offusquaient pas les regards de quelqu'un, et l'on pouvait se promener, accoutré n'importe comment. Au coin du péréoulogue de K, un marchand et sa femme vendaient des articles de mercerie étalés sur 2 tables. Bien qu'ils se disposassent aussi à regagner leur demeure, ils s'étaient attardés à causer avec une de leurs connaissances qui venait de s'approcher d'eux. Cette personne était Elisabeth Ivanovna, sœur cadette d'Alena Ivanovna, l'usurière, chez qui Raskolnikov était allé la veille mettre sa montre en gage et faire sa répétition. Depuis longtemps déjà, il était renseigné sur le compte de cette Élisabeth. Elle-même le connaissait un peu. C'était une grande et gauche fille de 35 ans, timide, douce et presque idiote. Elle tremblait devant sa sœur, qui la traitait littéralement en esclave, la faisait travailler jour et nuit pour elle, et même la battait. En ce moment, sa physionomie exprimait l'indécision, tandis que, debout, un paquet à la main, elle écoutait attentivement les propos du marchand et de sa femme. Ceux-ci lui expliquaient quelque chose et mettaient dans leurs paroles une chaleur particulière. Quand Raskolnikov aperçut tout à coup Élisabeth, il éprouva une sensation étrange qui ressemblait à une profonde surprise, bien que cette rencontre n'eût rien d'étonnant. Ben, il faut que vous soyez là pour traiter l'affaire, Élisabeth Ivanovna, dit avec force le marchand. Venez donc demain entre 6 et 7 heures. Ils viendront aussi de leur côté. Demain ? Fit d'une voix traînante Élisabeth, qui semblait avoir peine à se décider. Oh, vous avez peur d'Alena Ivanovna ? Dit vivement la marchande, qui était une gaillarde. Je l'aurai l'œil sur vous, car vous êtes vraiment qu'une petite enfant. Est-il possible que vous vous laissiez dominer à ce point par une personne qui n'est après tout que votre demi-sœur ? Oh, pour cette fois, ne dites rien à Alena Ivanovna, interrompit le mari. Voilà ce que je vous conseille. Venez chez nous, sans en demander la permission. Il s'agit d'une affaire avantageuse. Votre sœur pourra elle-même s'en convaincre ensuite. Est-ce que je viendrai ? Demain, entre 6 et 7 heures, on viendra aussi de chez eux. Il faut que vous soyez présente pour décider la chose. « Et nous aurons une tasse de thé à vous offrir, » ajouta la marchande. « C'est bien, je viendrai, » répondit Élisabeth, toujours pensive. Et lentement, elle se mit en devoir de prendre congé. Raskolnikov avait déjà dépassé le groupe formé par ces 3 personnes, et il n'entendit pas davantage. Il avait, sans en avoir l'air, ralenti son pas, s'efforçant de ne perdre aucun mot de cet entretien. À la surprise du premier moment, avait insensiblement succédé chez lui une frayeur qui le faisait frissonner. Le hasard le plus imprévu venait de lui apprendre que demain, à 7 heures précises du soir, Élisabeth, la sœur et l'unique compagne de la vieille, serait absente et que par conséquent, demain soir, à 7 heures précises, la vieille se trouverait seule chez elle. Le jeune homme n'était plus qu'à quelques pas de son logement. Il rentra chez lui comme s'il avait été condamné à mort. Il ne pensa à rien, et du reste ne pouvait pas penser. Il sentit subitement dans tout son être qu'il n'avait plus ni volonté ni libre arbitre et que tout était définitivement décidé. Certes, il aurait pu attendre des années entières une occasion favorable, essayer même de la faire naître sans en trouver une aussi propice que celle qui venait d'elle-même s'offrir à lui. En tout cas, il lui aurait été difficile de savoir la veille de science certaine, et cela sans courir le moindre risque, sans se compromettre par des questions dangereuses, que demain, à telle heure, telle vieille femme qu'il voulait tuer serait toute seule chez elle. Raskolnikov apprit plus tard pourquoi le marchand et la marchande avaient invité Élisabeth à venir chez eux. L'affaire était fort simple. Une famille étrangère, se trouvant dans la gêne, voulait se défaire des faits qui consistaient surtout en vêtements et linge à l'usage des femmes. Ces gens cherchaient donc à se mettre en rapport avec une revendeuse à la toilette. Or, Elisabeth exerçait ce métier. Elle avait une nombreuse clientèle parce qu'elle était fort honnête et disait toujours le dernier prix. Avec elle, il n'y avait pas à marchander. En général, elle parlait peu. Comme nous l'avons déjà dit, elle était fort douce et fort craintive. Mais depuis quelque temps, Raskolnikov était devenu superstitieux, et par la suite, quand il réfléchissait à toute cette affaire, il inclinait toujours à y voir l'action de causes étranges et mystérieuses. L'hiver dernier, un étudiant de sa connaissance, Pokoriev, sur le point de se rendre à Kharkov, lui avait donné en causant l'adresse de la vieille Arena Ivanovna pour le cas où il aurait besoin de faire un emprunt. Il fut longtemps sans aller chez elle parce que le produit de ses leçons lui permettait de vivoter. 6 semaines avant les événements que nous racontons, il se ressouvint de l'adresse. Il possédait 2 objets sur lesquels on pouvait lui prêter quelque chose, une vieille montre en argent qui lui venait de son père et un petit anneau d'or orné de 3 petites pierres rouges que sa sœur lui avait donné comme souvenir au moment où il s'était quitté. Raskolnikov se décida à porter la bague chez Alena Ivanovna. À première vue et avant qu'il sût rien de particulier sur son compte, cette vieille femme lui inspira une violente aversion. Après avoir reçu d'elle 2 petits billets, il entra dans un mauvais traktir qu'il rencontra sur son chemin. Là, il demanda du thé, s'assit et se mit à réfléchir. Une idée étrange, encore à l'état embryonnaire, dans son esprit, l'occupait exclusivement. À une table voisine de la sienne, un étudiant qu'il ne se souvenait pas d'avoir vu était assis avec un officier. Les 2 jeunes gens venaient de jouer au billard et ils étaient maintenant en train de boire du thé. Tout à coup, Raskolnikov entendit l'étudiant donner à l'officier l'adresse d'Alena Ivanovna, veuve d'un secrétaire de collège et prêteuse sur gage. Cela seul parut déjà quelque peu étrange à notre héros. On parlait d'une personne chez qui, justement, il s'était rendu peu d'instants auparavant. Sans doute, c'était un pur hasard, mais en ce moment, il luttait contre une impression dont il ne pouvait triompher. Et voici que, comme à point nommé, quelqu'un venait fortifier en lui cette impression. L'étudiant communiquait en effet à son ami divers détails sur Alena Ivanovna. « C'est une fameuse ressource, disait-il, il y a toujours moyen de se procurer de l'argent chez elle. Riche comme un juif, elle peut prêter 5 000 roubles d'un coup, et néanmoins elle accepte en nantissement des objets d'1 rouble. Elle est une providence pour beaucoup des nôtres, mais quelle horrible mégère !» Il se mit à raconter qu'elle était méchante, capricieuse, qu'elle n'accordait même pas 24 heures de répit et que tout gage non retiré au jour fixé était irrévocablement perdu pour le débiteur. Elle prêtait sur un objet le quart de sa valeur et prenait 5 et même 6% d'intérêt par mois, etc., etc. L'étudiant, en veine de bavardage, ajouta que cette affreuse vieille était toute petite, ce qui ne l'empêchait pas de battre à chaque instant et de tenir dans une dépendance complète sa sœur Elisabeth, qui, elle, avait au moins 2 archi-nuits-verchocs de taille. « Alors encore un phénomène !» s'écria-t-il. Il se mit à rire. L'entretien roula ensuite sur Elisabeth. L'étudiant parlait d'elle avec un plaisir marqué et toujours en riant. L'officier écoutait son ami avec beaucoup d'intérêt, le pria de lui renvoyer cette Elisabeth pour raccommoder son linge. Raskolnikov ne perdit pas un mot de cette conversation. Il apprit ainsi une foule de choses. Plus jeune qu'Alena Ivanovna, dont elle n'était que la sœur consanguine, Elisabeth avait 35 ans. Elle travaillait nuit et jour pour la vieille. Outre qu'elle cumulait dans la maison l'emploi de cuisinière et celui de blanchisseuse, elle faisait des travaux de couture qu'elle vendait, allait laver des parquets au dehors, et tout ce qu'elle gagnait, elle le donnait à sa sœur. Elle n'osait accepter aucune commande, aucun travail, qu'après avoir obtenu l'autorisation d'Alena Ivanovna. Celle-ci, Elisabeth le savait, avait déjà fait son testament au terme duquel sa sœur n'héritait que de son mobilier. Désireuse d'avoir à perpétuité des prières pour le repos de son âme, la vieille dame avait légué toute sa fortune à un monastère du gouvernement de N. Elisabeth appartenait à la classe bourgeoise et non aux Chin. C'était une fille démesurément grande et dégingandée, avec de longs pieds toujours chaussés de souliers avachis, d'ailleurs fort propres sur sa personne. Ce qui surtout étonnait et faisait rire l'étudiant, c'est qu'Elisabeth était continuellement enceinte. « Mais tu prétends que c'est un monstre ?» observa l'officier. « Oh, elle est fort brune de peau, la vérité. On dirait un soldat habillé en femme. Mais tu sais, c'est pas tout à fait un monstre. Il y a tant de bonté dans sa physionomie. Et ses yeux ont une expression si sympathique. Oh, la preuve, c'est qu'elle plaît à beaucoup de gens. Elle est si tranquille, si douce, si patiente. Elle a un caractère tellement facile. Et puis son sourire même est fort beau. » « Est-ce que par hasard elle te plairait ?» demanda en riant l'officier. « Oh, elle me plaît par son étrangeté. Mais quant à cette maudite vieille, je t'assure que je la tuerais et dépouillerais sans le moindre scrupule de conscience, » ajouta avec vivacité l'étudiant. L'officier se remit à rire, mais Raskolnikov frissonna. Les paroles qu'il entendait faisait si étrangement écho à ses propres pensées. Père, mais je vais te poser une question sérieuse, reprit l'étudiant de plus en plus échauffé. Tout à l'heure, sans doute je plaisantais, mais regarde. D'un côté, une vieille femme maladive, bête, stupide, méchante, un être qui n'est utile à personne, et qui au contraire nuit à tout le monde, qui ne sait pas lui-même pourquoi il vit et qui mourra demain de sa mort naturelle. Mais comprends-tu? Comprends-tu? Alors, je comprends, répondit l'officier, qui, en voyant son ami s'emballer de la sorte, le considérait attentivement. Je poursuis. De l'autre côté, les forces jeunes, fraîches, qui s'étiolent, se perdent faute de soutien, et cela par milliers, et cela partout. 100 000 œuvres utiles qu'on pourrait les unes créer, les autres améliorer, avec l'argent légué par cette vieille à un monastère. Des centaines d'existences, des milliers peut-être, mises dans le bon chemin, des dizaines de familles sauvées de la misère, de la dissolution, de la ruine, du vice, des hôpitaux vénériens. Et tout cela avec l'argent de cette femme. Qu'on la tue et qu'on fasse ensuite servir sa fortune au bien de l'humanité, crois-tu que le crime, si crime il y a, ne sera pas largement compensé par des milliers de bonnes actions? Pour une seule vie, des milliers de vies arrachées à leur perte, et pour une personne supprimée, 100 personnes rendues à l'existence. Mais voyons, c'est une question d'arithmétique. Et que pèse dans les balances sociales la vie d'une vieille femme cacochime, bête et méchante? Pas plus que la vie d'un pou ou d'une blatte. Je dirais même moins, car cette vieille est une créature malfaisante, un fléau pour ses semblables. Dernièrement, dans un transport de colère, elle a mordu le doigt d'Elisabeth, et il s'en est fallu de peu qu'elle ne l'ait coupé net avec ses dents. Ah, sans doute elle est indigne de vivre, remarqua l'officier, mais que veux-tu, la nature? Mon ami, la nature, on la corrige, on la redresse. Sans cela, on resterait enseveli dans les préjugés. Sans cela, il n'y aurait pas un seul grand homme. On parle du devoir, de la conscience, je ne veux rien dire là contre, mais comment comprenons-nous ces mots-là? Attends, je vais encore te faire une question, écoute. Oh non, maintenant c'est à mon tour de t'interroger. Laisse-moi te demander une chose. Eh bien, voici, tu es là à pérorer, à faire de l'éloquence. Mais dis-moi seulement ceci. Tueras-tu toi-même cette vieille, oui ou non? Non, naturellement, je me place ici au point de vue de la justice. Il ne s'agit pas de moi. Eh bien, à mon avis, puisque toi-même tu ne te décides pas à la tuer, c'est que la chose ne serait pas juste. Allez, allons faire encore une partie. Raskolnikov était en proie à une agitation extraordinaire. Certes, cette conversation n'avait en soi rien qui dût l'étonner. Plus d'une fois, lui-même avait entendu des jeunes gens échanger entre eux des idées analogues. Le thème seul différait. Mais comment l'étudiant se trouvait-il exprimer précisément les pensées qui, à cette minute même, venaient de s'éveiller dans le cerveau de Raskolnikov? Et par quel hasard, celui-ci, juste au sortir de chez la vieille, entendait-il parler d'elle? Une telle coïncidence lui parut toujours étrange. Il était écrit que cette insignifiante conversation de café aurait une influence prépondérante sur sa destinée. Revenu du marché au foin, il se jeta sur son divan, où il resta assis sans bouger durant une heure entière. L'obscurité régnait dans la chambre. Il n'avait pas de bougie, et d'ailleurs l'idée ne lui serait même pas venue d'en allumer une. Jamais il ne put se rappeler si pendant ce temps il avait pensé à quelque chose. À la fin, le frisson fiévreux de tantôt le reprit, et il songea avec satisfaction qu'il pouvait tout aussi bien se coucher sur le divan. Un sommeil de plomb ne tarda pas à s'abattre, pour ainsi dire, sur lui. Il dormit beaucoup plus longtemps que de coutume et sans faire de rêve. Nastasia, qui entra chez lui le lendemain à 10 heures, eut grand-peine à le réveiller. La servante lui apportait du pain et, comme la veille, le restant de son propre thé. « Il n'est pas encore levé !» s'écria-t-elle avec indignation. « Mais peut-on dormir ainsi ?» Raskolnikov se souleva avec effort. Il avait mal à la tête. Il se mit debout, fit un tour dans sa chambre, puis se laissa de nouveau tomber sur le divan. « Encore ! » cria Nastasia. « Mais t'es donc malade !» Il ne répondit pas. « Veux-tu du thé ?»« Plus tard, » articula-t-il péniblement. Après quoi, il ferma les yeux et se tourna du côté du mur. Nastasia, debout au-dessus de lui, le contempla pendant quelque temps. « Au fait, il est peut-être malade, » dit-elle avant de se retirer. À 2 heures, elle revint avec de la soupe. Elle trouva Raskolnikov toujours couché sur le divan. Il n'avait pas touché au thé. Mais la servante se fâcha et se mit à secouer violemment le locataire. « Mais qu'as-tu donc à dormir ainsi ? » gronda-t-elle en le regardant d'un air de mépris. Il se mit sur son séant, mais ne répondit pas un mot et resta les yeux fixés à terre. « Mais es-tu malade ou ne l'es-tu pas ?» demanda Nastasia. Oh, cette seconde question n'obtint pas plus de réponse que la première. « Mais tu devrais sortir, » dit-elle après un silence. « Le grand air te ferait du bien. Tu vas manger, n'est-ce pas ?» « Mais plus tard, » répondit-il d'une voix faible, « va-t'en. » Et il la congédia du geste. Elle resta encore un moment, le considéra avec une expression de pitié et finit par sortir. Au bout de quelques minutes, il leva les yeux, examina longuement le thé, la soupe, et commença à manger. Il avala 3 ou 4 cuillerées sans appétit, presque machinalement. Son mal de tête s'était un peu calmé. Quand il eut terminé son léger repas, il s'étendit de nouveau sur le divan, mais il ne put se rendormir et resta immobile, couché à plat ventre, le visage enfoncé dans l'oreiller. Sa rêverie évoquait sans cesse des tableaux bizarres. Le plus souvent, il se figurait être en Afrique. Il faisait partie d'une caravane arrêtée dans une oasis. Des palmiers croissaient autour du campement. Les chameaux se reposaient de leur fatigue. Les voyageurs étaient en train de dîner. Lui-même se désaltérait dans le courant d'une claire fontaine. L'eau bleuâtre et délicieusement fraîche laissait apercevoir au fond du ruisseau des cailloux de diverses couleurs et des sables aux reflets dorés. Tout à coup, une sonnerie d'horloge arriva distinctement à son oreille. Ce bruit le fit tressaillir. Rendu au sentiment de la réalité, il leva la tête, regarda vers la fenêtre et, après avoir calculé l'heure qu'il pouvait être, se leva précipitamment. Ensuite, marchant sur la pointe du pied, il s'approcha de la porte, l'ouvrit tout doucement et se mit à écouter sur le carré. Son cœur battait avec violence. Mais l'escalier était parfaitement silencieux. On aurait dit que tout le monde dormait dans la maison. Mais comment ai-je pu ainsi me laisser acculer au dernier moment ? Depuis hier, comment n'ai-je encore rien fait, rien préparé ? Se demandait-il, ne comprenant rien à une pareille négligence. Et pourtant, c'était peut-être 6 heures qui venaient de sonner. À l'inertie et à la torpeur succéda brusquement chez lui une activité fébrile extraordinaire. Du reste, les préparatifs négligeaient pas beaucoup de temps. Il s'efforçait de penser à tout, de ne rien oublier. Mais son cœur continuait à battre avec une telle force que sa respiration devenait difficile. D'abord, il devait faire un nœud coulant et l'adapter à son paletot. C'était l'affaire d'une minute. Il chercha dans le linge qu'il avait fourré sur l'oreiller une vieille chemise sale, d'ailleurs trop usée pour être encore mettable. Puis, au moyen de lambeaux arrachés à cette chemise, il confectionna une chevillière large d'Averbock et longue de 8. Après avoir plié en double, il ôta son paletot d'été, qui était fait d'une épaisse et solide étoffe de coton. C'était le seul vêtement de dessus qu'il posséda. Et il se mit à coudre intérieurement, sous l'aisselle gauche, les deux bouts de la chevillière. Ses mains tremblaient pendant qu'il exécutait ce travail. Il l'accomplit néanmoins avec un tel succès que, quand il eut remis son paletot, aucune trace de couture n'apparut du côté extérieur. L'aiguille et le fil, il se les était procurés depuis longtemps déjà, et il n'eut qu'à les prendre dans le tiroir de sa petite table. Quant au nœud coulant destiné à assujettir la hache, c'était un truc fort ingénieux dont l'idée lui était venue 15 jours auparavant. Se montrer dans la rue avec une hache à la main était impossible. D'autre part, cacher l'arme sous son paletot, c'était se condamner à avoir continuellement la main dessus, et cette attitude aurait attiré l'attention, tandis que, étant donné le nœud coulant, il lui suffisait d'y introduire le fer de la hache, et celle-ci restait suspendue sous son aisselle tout le temps de la route, sans danger de tomber. Il pouvait même l'empêcher de balloter. Pour cela, il n'avait qu'à tenir l'extrémité du manche avec sa main fourrée dans la poche de côté de son paletot. Vu l'ampleur de ce vêtement, un vrai sac, la manœuvre de la main à l'intérieur ne pouvait être marquée du dehors. Cette besogne achevée, Raskolnikov étendit le bras sous son divan turc et, introduisant ses doigts dans une fente du parquet, retira de cette cachette le gage dont il avait eu soin de se munir à l'avance. À vrai dire, ce gage n'en était pas un. C'était tout bonnement une petite église de bois poli, ayant à peu près la longueur et la grosseur qu'aurait pu avoir un porte-cigarette en argent. Pendant une de ces promenades, le jeune homme avait trouvé par hasard ce morceau de bois dans une cour dépendant d'un atelier de menuiserie. Il y joignit une petite plaque de fer, mince et polie, mais de dimension moindre, qu'il avait aussi ramassée dans la rue. Après avoir croisé l'une contre l'autre l'éclisse et la plaque de fer, il les attacha solidement ensemble à l'aide d'un fil, puis il enveloppa le tout dans un morceau de papier blanc. Ce petit paquet auquel il avait tâché de donner un aspect aussi élégant que possible, fut ensuite lié de telle sorte que le nœud fut assez difficile à défaire. C'était un moyen d'occuper momentanément l'attention de la vieille. Pendant qu'elle s'exprimerait sur le nœud, le visiteur pourrait saisir l'instant propice. La plaque de fer avait été ajoutée pour donner plus de poids au prétendu gage, afin que dans le premier moment, du moins, l'ouvrière ne se douta pas qu'on lui apportait un simple morceau de bois. Raskolnikov venait à peine de mettre l'objet dans sa poche qu'il entendit soudain quelqu'un crier du dehors « Ben, 6 heures sont sonnées depuis longtemps !»« Oh, depuis longtemps, mon Dieu !» Il s'élança vers la porte, prêta l'oreille et se mit à descendre ses 30 marches sans faire plus de bruit qu'un chat. Restait le plus important, aller prendre la hache qui se trouvait dans la cuisine. Depuis longtemps, il avait décidé qu'il devait se servir d'une hache. Il avait bien chez lui une sorte de sécateur, mais cet instrument ne lui inspirait aucune confiance et surtout, il se défiait de ses forces. Ce fut donc sur la hache que son choix se porta définitivement. Notons à ce propos une particularité singulière. À mesure que ses résolutions prenaient un caractère déterminé, il en sentait de plus en plus l'absurdité et l'horreur. Malgré la lutte affreuse qui se livrait au-dedans de lui, jamais il ne pouvait admettre un seul instant qu'il en viendrait à exécuter ses projets. Bien plus, si toutes les questions avaient été tranchées, tous les doutes levés, toutes les difficultés aplanies, il aurait probablement renoncé sur l'heure à son dessein comme à une chose absurde, monstrueuse et impossible. Mais il restait encore une foule de points à vider et de problèmes à résoudre. Pour ce qui était de se procurer la hache, cette niaiserie n'inquiétait nullement Raskolnikov, car rien n'était plus facile. Le fait est que Nastasia, le soir surtout, n'était presque jamais à la maison. Elle sortait sans cesse pour aller voisiner chez des amis ou chez des boutiquiers, et les querelles que lui faisait sa maîtresse n'avaient jamais d'autre cause. Le moment venu, il suffirait donc d'entrer tout doucement dans la cuisine et de prendre la hache, quitte à aller la remettre au même endroit 1 heure après, quand tout serait fini. Mais cela n'irait peut-être pas tout seul. Supposons, se disait le jeune homme, que dans 1 heure, quand je viendrai rapporter la hache, Nastasia soit rentrée. Naturellement, en ce cas, je devrais attendre pour pénétrer dans la cuisine une nouvelle sortie de la servante. Mais si pendant ce temps-là, elle remarque l'absence de la hache, elle se mettra à la chercher, elle bougonnera, qui sait, elle jettera peut-être les bois dans la maison. Et voilà une circonstance qui sera relevée contre moi, ou du moins, qui pourra l'être. Toutefois, ce n'était encore là que des détails auxquels il ne voulait pas penser. D'ailleurs, il n'en avait pas le temps. Il songeait au principal, décidé à ne s'occuper de l'accessoire que quand il aurait lui-même pris son parti sur le fond. Cette dernière condition, la plus essentielle de toutes, lui semblait décidément irréalisable. Ainsi, il ne pouvait s'imaginer qu'à un moment donné, il cesserait de penser, se lèverait et irait là carrément. Même dans sa récente répétition, c'est-à-dire dans la visite qu'il avait faite à la veille, à la vieille, pour tâter définitivement le terrain, il s'en était fallu de beaucoup qu'il eût répété sérieusement. Acteur sans conviction, il n'avait pu soutenir son rôle et s'était enfui, indigné contre lui-même. Pourtant, au point de vue moral, Raskolnikov avait lieu de considérer la question comme résolue. Sa casuistique, aiguisée comme un rasoir, avait tranché toutes les objections, mais ne rencontrant plus dans son esprit, il s'efforçait d'en trouver au dehors. On eût dit qu'entraîné par une puissance aveugle, irrésistible, surhumaine, il cherchait désespérément un point fixe auquel il pût se raccrocher. Les incidents si imprévus de la vieille agissaient sur lui d'une façon presque absolument automatique. Tel un homme qui a laissé prendre le pan de son habit dans une roue d'engrenage est bientôt saisi lui-même par la machine. La première question qu'il occupait, à laquelle du reste il avait songé bien des fois, était celle-ci. Pourquoi presque tous les crimes sont-ils si facilement découverts et pourquoi retrouve-t-on si aisément les traces de presque tous les coupables? Il arriva peu à peu à diverses conclusions curieuses. Selon lui, la principale raison du fait était moins dans l'impossibilité matérielle de cacher le crime que dans la personnalité même du criminel. Presque toujours, ce dernier se trouvait éprouvé au moment du crime une diminution de la volonté et de l'entendement. C'est pourquoi il se conduisait avec une étourderie enfantine, une légèreté phénoménale, alors même que la circonspection et la prudence lui étaient le plus nécessaires. Raskolnikov assimilait cette éclipse du jugement et cette défaillance de la volonté à une affection morbide qui se développait par degrés, atteignait son maximum d'intensité peu avant la perpétration du crime, subsistait sous la même forme au moment du crime et encore quelque temps après, plus ou moins longtemps, suivant les individus, pour cesser ensuite, comme cessent toutes les maladies. Un point à éclaircir était celui de savoir si la maladie détermine le crime ou si le crime lui-même, en vertu de sa nature propre, n'est pas toujours accompagné de quelques phénomènes morbides. Mais le jeune homme ne se sentait pas encore capable de résoudre cette question. En raisonnant de la sorte, il se persuada que lui, personnellement, il était à l'abri de semblables bouleversements moraux, qu'il conserverait la plénitude de son intelligence et de sa volonté pendant toute la durée de son entreprise, par cette seule raison que son entreprise n'était pas un crime. Nous ne rapporterons pas la série des arguments qui l'avaient conduit à cette dernière conclusion. Bornons-nous à dire que dans ses préoccupations, le côté pratique, les difficultés purement matérielles d'exécution restaient tout à fait à l'arrière-plan. Que je conserve seulement ma présence d'esprit, ma force de volonté, quand le moment d'agir sera venu, je triompherai de tous les obstacles. Mais il ne se mettait pas à l'œuvre. Moins que jamais, il croyait à la persistance finale de ses résolutions, et quand l'heure sonna, il se réveilla comme d'un rêve. Il n'était pas encore au bas de l'escalier qu'une circonstance fort insignifiante va le dérouter. Arrivé sur le palier où habitait sa logeuse, il trouva grande ouverte, comme toujours, la porte de la cuisine et jeta discrètement un coup d'œil dans cette pièce. En l'absence de Nastasia, la logeuse elle-même n'était-elle pas là? Si elle n'y était pas, avait-elle bien fermé la porte de sa chambre? Ne pouvait-elle pas le voir de chez elle lorsqu'il entrerait pour prendre la hache? Voilà ce dont il voulait s'assurer. Mais quelle ne fut pas sa stupeur en constatant que cette fois, Nastasia était dans la cuisine. Qui plus est, elle était occupée. Elle tirait du linge d'un panier et l'étendait sur des cordes. À l'apparition du jeune homme, la servante, interrompant son travail, se tourna vers lui et le regarda jusqu'à ce qu'il se fût éloigné. Il détourna les yeux et passa sans avoir l'air de rien remarquer. Mais c'était une affaire finie, il n'avait point de hache. Cette déconvenue lui porta un coup terrible. Et où avais-je pris, pensait-il en descendant les dernières marches de l'escalier, mais où avais-je pris que juste à ce moment-là, Nastasia serait infailliblement sortie? Mais comment m'étais-je mis cela dans la tête? Oh, il était écrasé comme anéanti. Dans son dépit, il éprouvait un besoin de se moquer de lui-même. Une colère sauvage bouillonnait dans tout son être. Il s'arrêta indécis sous la porte cochère. Aller dans la rue, sortir sans but pour la frime, oh, il n'en avait pas la moindre envie. Mais il lui était encore plus désagréable de remonter chez lui. Oh, dire que j'ai perdu pour toujours une si belle occasion, grommelait-il, debout en face de l'obscure loge du Dvobik, laquelle était ouverte aussi. Tout à coup, il tressaillit. Dans la loge, à deux pas de Raskolnikov, quelque chose brillait sous un banc à gauche. Le jeune homme regarda autour de lui. Personne. Il s'approcha tout doucement de la loge, descendit deux petites marches et appela d'une voix faible le dvornik. Ah non, il n'est pas chez lui. Bon, du reste, il ne doit pas être allé loin puisqu'il a laissé sa porte ouverte. Prompt comme l'éclair, il s'élança vers la hache où il s'en était une et la tira de dessous le banc où elle reposait entre deux bûches. Ensuite, il passa l'arme dans le nœud coulant, fourra ses mains dans ses poches et sortit de la loge. Personne ne le remarqua. « Ce n'est pas l'intelligence qui m'a aidé ici, c'est le diable », pensa-t-il avec un sourire étrange. L'heureuse chance qui venait de lui échoir contribua puissamment à l'encourager. Une fois dans la rue, il marcha tranquillement, gravement, sans se hâter et de peur d'éveiller des soupçons. Il ne regardait guère les passants. Il s'efforçait même de ne fixer les yeux sur personne et d'attirer le moins possible l'attention. Soudain, il repensa à son chapeau. « Mon Dieu, avant-hier, j'avais de l'argent. J'aurais si bien pu acheter une casquette. » Une imprécation jaillit du fond de son âme. Un coup d'œil, jeté par hasard dans une boutique où il y avait une horloge adossée au mur, lui apprit qu'il était déjà 7h10. Le temps pressait et pourtant il lui fallait faire un détour car il ne voulait pas être vu arrivant de ce côté à la maison. Naguère, lorsqu'il essayait de se représenter par avance la situation qui était maintenant la sienne, il se figurait parfois qu'il serait très effrayé. Et bien à présent, contrairement à son attente, il n'avait pas peur du tout. Des pensées étrangères à son entreprise occupaient son esprit, mais ce n'était jamais pour longtemps. Tandis qu'il passait devant le jardin Loussoupov, il se disait qu'on ferait bien d'établir sur toutes les places publiques des fontaines monumentales pour rafraîchir l'atmosphère. Puis, par une série de transitions insensibles, il en vint à songer que si le jardin d'été prenait toute l'étendue du Champ de Mars et allait même se joindre au jardin du palais Michel, Pétersbourg y trouverait force profit et agrément. C'est ainsi sans doute que les gens conduisent au supplice arrêtent leurs pensées sur tous les objets qu'ils rencontrent en chemin. Cette idée lui vint à l'esprit, mais il se hâta de la chasser. Cependant, il approche. Voici la maison, voici la grande porte. Soudain, il entend une horloge sonner un seul coup. Comment, est-ce qu'il serait 7h30? C'est impossible, avant certainement. Cette fois encore, le hasard servit à Raskolnikov. Comme par un fait exprès, au moment même où il arrivait devant la maison, une énorme charrette de foin entrait par la porte cochère, dont elle occupait presque toute la largeur. Le jeune homme put donc franchir le seuil sans être vu, en se glissant dans l'étroit passage resté libre entre la charrette et le mur. Quand il fut dans la cour, il prit vivement à droite. De l'autre côté de la charrette, des gens se disputaient, il les entendait crier. Mais nul ne le remarqua et il ne rencontra personne. Plusieurs des fenêtres qui donnaient sur cette immense cour carrée étaient alors ouvertes. Cependant, il ne leva pas la tête, il n'en avait pas la force. Son premier mouvement fut de gagner l'escalier de la vieille, lequel se trouvait à droite. Reprenant haleine et tenant la main appuyée sur son cœur pour en comprimer les battements, il se mit en devoir de gravir les marches, non sans s'être assuré que sa hache était bien assujettie par le nœud coulant. À chaque minute, il prêtait l'oreille. Mais l'escalier était complètement désert, toutes les portes étaient fermées. Il ne rencontra pas une âme. Au second étage, il est vrai, un logement inhabité était ouvert et des peintres y travaillaient. Ceux-ci du reste ne virent pas Raskolnikov. Il s'arrêta un instant, réfléchit et continua son ascension. Sans doute mieux vaudrait qu'ils ne fussent pas là, mais au-dessus d'eux, il y a encore deux étages. Voici le quatrième étage. Voici la porte d'Alena Ivanovna. Le logement d'en face est inoccupé. Au troisième, l'appartement situé juste au-dessous de celui de la vieille est vide aussi, selon toute apparence. La carte de visite qui était clouée sur la porte n'y est plus, les locataires ont dû partir. Raskolnikov étouffait. Il eut une seconde d'hésitation. Ferais-je pas mieux de m'en aller ? Mais sans répondre à cette question, il se mit aux écoutes. Aucun bruit ne venait de chez l'usurière. Dans l'escalier, même silence. Après avoir longtemps prêté l'oreille, le jeune homme jeta un dernier regard autour de lui et tâta de nouveau sa hache. « Ne suis-je point trop pâle ?» pensa-t-il. « N'ai-je pas l'air trop agité ? Elle est défiante. Si j'attendais encore un peu, pour laisser à mon émotion le temps de se calmer. » Mais, loin de s'atténuer, les pulsations de son cœur devenaient de plus en plus violentes. Il n'y put tenir davantage. Et avançant lentement la main vers le cordon de la sonnette, il le tira à lui. Au bout d'une demi-minute, il sonna de nouveau, cette fois mais un peu plus fort. Pas de réponse. Carillonner comme un sourd eût été inutile, maladroit même. À coup sûr, la vieille était chez elle. Mais naturellement soupçonneuse, elle devait être d'autant plus en ce moment qu'elle se trouvait seule. Raskolnikov connaissait en partie les habitudes d'Alena Ivanovna. Et de rechef, il appliqua son oreille contre la porte. La circonstance avait-elle développé chez lui une acuité particulière de sensation, ce qui en général est difficile à admettre, ou bien en effet le bruit était-il aisément perceptible. Quoi qu'il en soit, son ouïe distingua soudain qu'une main se posait avec précaution sur le bouton de la serrure et qu'une robe frôlait la porte. Quelqu'un à l'intérieur se livrait exactement au même manège que lui sur le palier. Quelqu'un, debout près de la serrure, écoutait en s'efforçant de dissimuler sa présence et probablement aussi avait l'oreille collée contre la porte. Ne voulant pas avoir l'air de se cacher, le jeune homme fit exprès de remuer quelque peu bruyamment et de grommeler assez haut. Puis il sonna pour la troisième fois, mais doucement, posément, sans que son coup de sonnette trahît la moindre impatience. Cette minute laissa à Raskolnikov un souvenir ineffaçable. Quand plus tard il y songeait, jamais il ne parvenait à comprendre comment il avait pu déployer tant de ruses, alors surtout que l'émotion le troublait au point de lui ôter par instant la possession de ses facultés intellectuelles et physiques. Mais au bout d'un moment, il entendit qu'on tirait le verrou.